Bonjour à tous les auditeurs d'Aligre FM. Nous sommes tous en direct aujourd'hui. Il est 16h sur la petite horloge du studio d'Aligre FM. Nous sommes le 27 janvier 2024 et nous avons l'immense plaisir aujourd'hui d'aborder une thématique qui va s'appeler la laïcité en question. Bonjour Michele Saporiti.
Bonjour Nathalie Perrin, plaisir de te revoir.
Ouais, tu es venu d'Italie pour animer cette émission avec moi aujourd'hui. Nous saluons notre troisième collègue Stéphanie Ronchevski-Degore. Voilà, vous savez que nous sommes trois présentateurs mais que nous alternons selon nos calendriers. Alors pour parler de cette grande thématique aujourd'hui dans cette émission Philosophie au présent, dont nous rappelons qu'il est le fruit d'un partenariat depuis maintenant 5 ans avec le Collège international de philosophie. Nous en sommes ravis. Voilà, c'est un très beau partenariat avec Aligre FM qui continue, qui fête aussi ses 40 ans. Quelle jeunesse magnifique. Et nous espérons un grand avenir encore. Donc pour la laïcité en question, nous avons aujourd'hui deux invités que nous connaissons personnellement. Nous avons déjà reçu Martine Cohen. Bonjour Martine.
Bonjour Nathalie.
Et puis nous recevons un très cher ami également, j'ose le dire, Robert Hachi. Voilà.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Et merci à tous les deux d'être venus.
On va introduire nos invités.
Oui, les présenter à nos auditeurs.
Ouais. Alors, Martine Cohen, bienvenue à Philosophie Présent.
Merci.
Deuxième fois, disons.
Oui.
Alors, Martine Cohen, vous êtes sociologue émérite du CNRS, spécialiste du judaïsme français et européen, très engagée, disons, dans la vie associative, surtout dans le 11e arrondissement. Et Martine Cohen est aussi membre de la Ligue des droits de l'homme. Je voudrais rappeler, Nathalie, que Aligre FM a une émission qui est liée à la Ligue des droits de l'homme.
Tout à fait,
c'est très important de la rappeler. Et aussi, vous êtes membre de la Paix Maintenant.
Hein? La Paix Maintenant.
Okay. Maintenant. Très bon. Alors, je vais seulement rappeler votre dernier livre, qui s'appelle « Fin du franco-judaïsme, quelle place pour le juif ?» Point d'interrogation, bien sûr. « Quelle place pour le juif dans une France multiculturelle ?» qui faisait l'objet d'une émission que, malheureusement, on n'a pas, disons comme ça, gardée, entre guillemets.
Oui, malheureusement, oui.
2022. Mm-hmm. Et maintenant, notre invité...
Robert Hachi. Donc, Robert Hachi, vous êtes professeur agrégé de sciences sociales, chercheur spécialiste de la laïcité et de l'islam. C'est à ce titre qu'on vous invite aujourd'hui. Dans une perspective socio-historique, donc là, je serai amené à reposer des questions là-dessus. Dans quelle perspective ? Membre également du Centre Maurice Albvax. En tout cas travaillant en partenariat également avec l'École normale supérieure. Vous êtes actuellement docteur, chercheur, vous allez bientôt soutenir votre thèse. Pourriez-vous nous rappeler le titre de cette thèse, de ce travail qui est en train de s'achever ?
En quelques mots seulement, parce que je pense qu'il y a d'autres sujets beaucoup plus importants que le sujet de ma thèse. le titre de ma thèse s'intitule, c'est « Laïcité d'Empire », c'est-à-dire que j'essaie de travailler sur les façons, les modalités d'application du régime de laïcité à l'Empire colonial français.
Voilà. Et je cite deux articles dont vous nous avez fait part aujourd'hui pour préparer cette émission. Alors, « Les musulmans d'Algérie pour la laïcité », que vous avez écrit un petit article dans un livre absolument magnifique, il faut que tout le monde achète ce livre s'il ne l'a pas encore, qui s'appelle « Colonisation, notre histoire », qui est sous la direction de Pierre Singaravelu. La coordination, on connaît certains de ses grands noms en France, Arthur Asseraf, Guillaume Blanc, Nadia Yalakisoukidi, qui est au département de philosophie de Paris 8, Mélanie Lamotte, et c'est un ouvrage qui est paru en septembre 2023, donc vous y écrivez « Les musulmans d'Algérie pour la laïcité », et vous nous avez fait parvenir également un article qui s'appelle « La France, l'islam et la loi de 1905, genèse coloniale d'un poncif, l'incompatibilité ». Cet article va paraître en France, est paru en France.
Et est sorti aux États-Unis.
États-Unis, d'accord. Donc c'est un petit peu pour nous une première. Nous allons en parler, peut-être lire quelques extraits tout à l'heure.
Très bien.
Michele ?
Alors, peut-être...
Oui, on voulait poser une première grande question générale à nos deux invités. Oui. Et honneur aux femmes, Martine Cohen, vous prendrez la parole si ça ne vous dérange pas. Comment avez-vous été amenée à faire vos recherches qui sont au croisement de la laïcité, de l'histoire, de la sociologie. Martine Cohen.
Oui, ben écoutez, je dirais par deux entrées, on va dire. D'une part, concernant le monde juif en France, déjà, on peut dire que la laïcité de 1905, la séparation des églises et de l'État de 1905, a permis une ouverture au pluralisme religieux interne au monde juif, puisqu'elle a ôté tout monopole à l'institution consistoriale créée en 1808 par Napoléon. Donc le consistoire central, qui s'appelle toujours comme ça aujourd'hui, n'est plus monopolistique, et d'autres associations cultuelles ont pu être créées après 1905, plus orthodoxes ou libérales. Et c'est un premier pas vers une pluralisation interne au monde juif, même si à l'époque, et jusqu'aux années 80-90, on va dire, en France, ces courants orthodoxes ou libéraux ne prétendaient pas, ne souhaitaient pas mettre en question la centralité ou la représentativité du consistoire. Or, c'est ce qui se passe depuis les années 80. Donc, pluralisme interne au monde juif, la laïcité en termes de séparation des églises et de l'État permet cela. Et ensuite, le point de vue plus externe au monde juif, mais comparativement avec d'autres univers, notamment musulmans, la laïcité permet une pluralisation religieuse en général. Elle existait avant 1905 avec ce qu'on appelait les cultes reconnus, mais après 1905, aujourd'hui, elle est ouverte à tous les cultes. Il suffit de créer une association cultuelle, loi 1905, et voilà, il y a des contrôles. Il y avait des contrôles minimaux, il y en a un peu plus maintenant, qui étaient exercés. Voilà, donc cette comparaison entre les évolutions du monde juif et notamment les évolutions du monde musulman, mais pas que, mais me permettent aussi de réfléchir à la pluralisation religieuse en France du fait de cette loi de séparation des églises et de l'État.
Merci beaucoup Martine Cohen. Alors Robert Hachi, je repose la même question. Comment avez-vous été amené à croiser cette question de la laïcité dans votre recherche, et je rappelle par rapport au monde musulman?
Alors au départ, c'est un pur hasard, puisque une de mes premières enquêtes a été réalisée en fait sur le terrain de l'île de la Réunion, qui n'a pas donné lieu à de grandes publications. Enfin, c'est mon premier travail de terrain. Je m'étais intéressé aux associations islamiques de l'île, et en fait, j'avais fait un terrain de 2 mois presque là-bas. Donc j'avais travaillé sur les archives, j'avais rencontré un certain nombre de responsables associatifs. Et en travaillant sur les archives, je me suis rendu compte que le décret d'application pour l'île de la Réunion, de la loi de 1905, parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a un certain nombre de territoires seulement qui ont été concernés par la loi en 1905. La Réunion en fait partie. Et je me suis rendu compte dans les archives que pour écrire le décret qui concernait l'île de la Réunion, c'était le décret sur l'Algérie qui servait de modèle d'écriture. Alors je me suis dit, c'est quand même curieux. Étant d'origine algérienne, je me suis dit, bon, c'est une malédiction, ça me poursuit. Et en fait, en creusant un tout petit peu la piste de l'Algérie, je me suis rendu compte que l'Algérie servait de matrice pour l'écriture du droit, pas uniquement pour la législation des cultes, mais pour un certain nombre également des législations répressives. Hein. L'Algérie a servi de modèle pour des décrets, un certain nombre de décrets pendant toute la période coloniale. Et en rentrant en France, comme j'ai vu que ce sujet, ce terrain n'intéressait pas grand monde, je suis allé aux archives coloniales, aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence. Et là, je dois bien avouer que ça a été un choc. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, un, que les arabo-musulmans étaient présents dès les premières années qui ont suivi 1905, dans les débats, dans la mise en œuvre, ce que l'on a tendance à oublier aujourd'hui, voire une forme d'amnésie, en fait, sur la question. Ils sont présents dès le départ. Et la deuxième chose, c'est que je me suis rendu compte que tous les territoires algériens, enfin, les 3 départements algériens, étaient administrés par le ministère de l'Intérieur, comme n'importe quel département de métropole, avec une logique de contrôle et répressive qui était bien évidemment beaucoup plus importante. Donc c'est comme ça que l'Algérie est venue dans mes travaux de recherche. Voilà.
Très bien, Michele.
Et alors, maintenant, Nathalie, essayons de poser la question des questions, disons comme ça. On fait un peu le Socrate du moment. C'est-à-dire, ouais, on parle de la laïcité, ouais, mais c'est quoi la laïcité? Énorme question, je vois Martine Cohen qui se... Alors, comment définir la laïcité? Alors, c'est quoi? C'est un principe politique, c'est un principe de liberté, c'est un régime, c'est une création française qui change en continuation. C'est quoi la laïcité? C'est une énorme question que je dois dire, en sciences sociales, mais aussi en philosophie, mais aussi en histoire, mais aussi en droit, on se pose constamment. Martin Cohen, la parole à vous. C'est quoi la laïcité ?
Je vais essayer de faire court, qui n'est oui. pas évident pour éventuellement laisser la place à un autre point de vue, celui de Rabert peut-être. La laïcité, c'est un principe à la fois de liberté de conscience pour tous les individus, de croire ou ne pas croire, et de pouvoir pratiquer, si on est croyant, son culte, premièrement. Et deuxièmement, c'est un principe de neutralité de l'État vis-à-vis de tous les cultes. De neutralité et d'égalité aussi entre tous les citoyens, quel que soit leur culte. On va dire ça grossièrement, comme ça pour l'instant.
Est-ce qu'on peut dire, seulement pour préciser, neutralité, ce n'est pas indifférence, n'est-ce pas ?
Non, neutralité, ce n'est pas indifférence, c'est une impartialité, tout simplement, plutôt. Hein. Ce n'est pas indifférence. L'État ne reconnaît pas, au sens pré-1905, les cultes, mais il les connaît.
Rabert Hachi, à vous.
Je souscris à la définition qui vient d'être donnée. J'ajouterais juste le libre exercice des cultes. Le libre exercice même public des cultes, qu'on a tendance, enfin, qui a été un tout petit peu renié ces jours-ci. J'ai terminé la lecture du livre d'une juriste que je recommande aux auditeurs, petit livre à la maison, Anna Moza, La laïcité, la juriste Stéphanie Hennette-Vaucher. Elle parle d'hypertrophie de la neutralité. C'est-à-dire que la neutralité occupe tellement de place que la question du libre exercice du culte est de plus en plus rabotée. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à considérer aujourd'hui, si on interroge, des enquêtes le montrent, hein, notamment des sondages d'opinion, si on interroge des gens sur qu'est-ce que c'est que la laïcité, notamment à des élèves, certains, ou même certains enseignants, vont dire c'est la neutralité absolue. Hein. La question de la religion doit rester à la maison, dans la sphère privée. Dans les textes qui réglementent les questions religieuses, c'est pas du tout cette dimension qui l'emporte. C'est-à-dire que on peut même exprimer publiquement son appartenance à un culte en particulier. La seule contrainte, la seule limite, c'est de ne pas créer de situations qui troubleraient l'ordre public. Je parle d'exercice dans l'espace public. On a eu, il y a quelques années, un certain nombre de débats et de controverses sur les prières de rue, par exemple.
Sur l'absence de mosquées, notamment.
Exactement. Sur le plan du droit, il n'y a pas réellement d'interdiction formelle. La seule question, c'est qu'un certain nombre de riverains s'y étaient opposés, etc.
Bien sûr.
Mais dans l'espace public, il y a même, par exemple, on va pas entrer dans les détails juridiques, mais il y a un arrêt du Conseil d'État qui a validé, par exemple, le fait que la municipalité de Montpellier ait prêté une salle polyvalente, qui appartient à tout le monde, lors d'une fête religieuse, précisément parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit pour y célébrer cette fête religieuse, et la municipalité a prêté une salle polyvalente parce que la liberté religieuse était engagée. Donc, c'est pour ça que moi, je considère que la question de la neutralité, elle est dans tous les esprits, neutralité à la fois d'indifférence vis-à-vis des cultes, neutralité financière aussi, mais là aussi qui rencontre un certain nombre d'exceptions, parce que l'État finance indirectement, je dis bien indirectement, les cultes, d'une certaine façon. Peut-être qu'on en parlera un peu plus dans le détail.
Tout à fait, dans la deuxième partie de l'émission.
C'est en fait une espèce de triangulation entre les principes qui ont été donnés par Martin Cohen, la question de la neutralité, la question de la liberté de conscience, la question du libre exercice du culte, et il y a un certain nombre de conflits lorsque ces principes sont mis en œuvre, quelle que soit la religion, mais surtout depuis un certain nombre d'années concernant l'islam.
Bon, très bien. Alors, je vous pose une autre question qui est liée aux définitions que vous avez données, c'est-à-dire, vous êtes d'accord qu'on devrait parler des laïcités et pas de la laïcité? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit parler d'une façon plurielle de la laïcité? Il y a différents modèles, différentes façons d'entendre, différentes époques aussi historiques. Je me rappelle par exemple les livres de Jean Bobéro, les sept laïcités françaises. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on doit parler au pluriel quand on parle des laïcités?
Oui, parce que précisément, il faut qu'on dise, Michele, que la première partie de l'émission, toi et moi, nous l'avons pensée sur cette question de la pluralité de la laïcité. Ouais. C'est aussi une manière, peut-être, mais là, on laisse la question ouverte, en vous écoutant aujourd'hui, d'essayer de destituer cette position un peu franco-française du laïc, puisqu'elle existe. En tout cas, moi, j'avais travaillé là-dessus sur des grands penseurs musulmans et notamment philosophes, que cette laïcité, elle a une histoire même dans le monde musulman, par exemple. Donc, on voudrait un petit peu, avec vous, avec votre aide aujourd'hui dans cette première partie d'émission, destituer la laïcité au profit des laïcités, ce que vous semblez travailler l'un comme l'autre.
Oui, si vous êtes d'accord, hein, avant
oui.
tout.
Oui, moi, ça...
non, mais moi, je vais Martine. Juste dire Cohen. Deux points. En interne, pour la France, pas seulement métropolitaine, mais dom-tom aussi, et aussi en Alsace-Moselle, hein, pour la France, déjà, il y a plusieurs régimes de laïcité. Voilà, on va dire comme ça. Si on prend le principe, les trois principes de base, d'un point de vue analytique sur la laïcité, c'est-à-dire l'indépendance réciproque entre les églises et l'État. Deuxièmement, la neutralité de l'État vis-à-vis de tous les cultes, et ensuite l'impartialité donc, et ensuite l'égalité entre tous ces cultes. Voilà. Si on prend ces trois principes-là, on peut dire qu'il y a plusieurs possibilités de liens ou de non-liens entre l'État et les églises, entre l'État et les groupes religieux d'une manière générale. Et on sait qu'en Alsace-Moselle, où le régime de... anciennement, Concordat existe toujours, mais a été reconnu comme pouvant faire par le Conseil d'État comme pouvant faire partie de la laïcité française. Donc on a déjà, au moins en France métropolitaine, deux régimes de laïcité. Peut-être Robert ajoutera quelque chose sur les dom-tom et anciennement les colonies, mais les dom-tom. Ensuite, en externe, à l'extérieur de la France aussi, il y a plusieurs régimes de laïcité. Si on prend les trois principes de base que j'ai énoncés tout à l'heure, il y a différents... régime de relation entre l'Église et les Églises et l'État. Par exemple, en Angleterre, il y a une Église établie, dont la reine ou le roi aujourd'hui est le chef de l'Église anglicane en question. Mm-hmm. Cela n'empêche pas le pluralisme religieux en Angleterre. Mm-hmm. Voilà. Dans d'autres régimes, on pense à l'Allemagne par exemple, il y a des relations entre l'État et les groupes religieux, les différents groupes religieux, et cela n'empêche pas le pluralisme religieux et l'égalité des citoyens.
Petite.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, bon, on a dit, si j'ai bien compris, Martine Cohen, donc le même principe, disons le trois piliers, disons comme ça, différentes façons d'articulation. Rabérachi, qu'en pensez de ça ?
Oui, ça ne me dérange absolument pas d'évoquer le pluriel au sujet de la laïcité, que ce soit d'un point de vue historique, mais y compris même pour la période contemporaine. Sur le plan historique, dès le départ, Martine Cohen l'a rappelé tout à l'heure, même si la loi a une vocation au départ universelle. C'est-à-dire que quand on prend le texte de loi, bon, on va mettre de côté toutes les parties très techniques, qu'à mon avis, seules une cinquantaine de personnes en France sont capables de déchiffrer, parce que c'est une loi très technique.
Absolument.
C'est technique du point de vue de... C'est une séparation, mais j'allais dire comme une séparation d'un couple, c'est-à-dire que c'est un divorce qui est organisé. Et c'est un divorce qui est organisé, on en a discuté avec Martine Cohen, j'aurais tendance à penser au profit... On nous a tous enseigné, la République a été triomphaliste hein, dans sa... capacité à maîtriser les prétentions universalistes de l'Église catholique. Mais en fait, la République a beaucoup composé avec l'Église catholique. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser la loi comme une. Elle a été réformée près de 18 fois, si mes chiffres sont bons, et toujours, presque toujours, au profit de l'Église catholique, sur le plan historique. Si vous prenez les premières réformes, ce qu'on oublie, c'est que dès l'année 1907... La loi est réformée, c'est la loi du 2 janvier 1907, Martine Cohen l'évoquait tout à l'heure, la possibilité pour n'importe lequel d'entre nous de créer une association de la loi 1901 dans laquelle on pourrait exercer le culte. Ça, c'est une dimension très libérale, qui a bénéficié d'ailleurs aujourd'hui, le paradoxe, c'est qu'elle a bénéficié essentiellement aux musulmans et aux évangélistes aujourd'hui, cette disposition.
Mais à l'époque, c'était l'Église catholique.
À l'époque, elle a été pensée, cette réforme,
pour l'Église catholique.
Et c'est très libéral. Il y a eu deuxième réforme en mars 1907 sur la question de la liberté de la réunion. Bon, en gros, il n'y a pas d'autorisation préalable pour tenir une réunion dans un lieu de culte. Donc, il y a des réformes comme ça, il y en a énormément, y compris pendant la période du régime de Vichy. Il y a un cadeau même qui est fait à l'Église catholique, qui n'a pas été remis en cause à la Libération, la loi du 25 décembre 1942. Cette loi, elle institue le principe de la possibilité, vous et moi, nous pouvons accorder, transmettre des dons et des legs à une association cultuelle.
Oui.
La possibilité aussi de ne pas considérer comme l'entretien d'un certain nombre de lieux de culte comme étant un subventionnement. Mmh. Cette loi n'a pas été remise en cause à la Libération. Donc, toute la première moitié du XXe siècle, il y a un régime de laïcité qui s'applique, mais avec comme culte en particulier, c'est au profit de l'Église catholique. Ça, on l'oublie souvent.
Oui.
D'autant plus que dans la deuxième moitié du XXe siècle, moi, j'ai tendance à penser que ce libéralisme voulu au plan cultuel s'est déplacé sur le plan scolaire. Vous avez là aussi, à partir des années 50, toute une série de lois, qu'on évoque d'ailleurs actuellement à travers un certain nombre d'affaires sur l'enseignement privé, qui permettent à l'État de financer des établissements confessionnels sous contrat.
Voilà. Mmh.
On est toujours dans le régime de laïcité, mais on est dans le domaine scolaire.
Et dans une hypocrisie, mais on y reviendra.
Alors, je vais essayer de garder ma casquette de chercheur cet après-midi.
Exactement, on doit le faire.
Donc, ne serait-ce que pour ces deux raisons, on peut parler de laïcité au pluriel, il n'y a pas... Mais même dans la loi, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, par exemple, l'article 2 permet le financement d'aumôneries. À l'époque, l'extrême-gauche à l'Assemblée nationale, notamment sous la férule de Maurice Allard, c'était inconcevable de financer des aumôneries. Bon, leur amendement a été retiré, donc c'est dans la loi. Aujourd'hui, on finance des aumôniers à l'école, dans les hôpitaux, dans les prisons. Mmh. Pour l'armée, c'est différent parce que ça remonte à une législation de juillet 1880, mais l'État finance des religieux, d'accord, qui perdent le statut de religieux dans le cadre de l'aumônerie, mais tout ça est financé par des fonds publics.
Oui.
Donc, rien que pour ces quelques exemples, on peut parler de laïcité au pluriel.
Donc, grand merci pour Martin Cohen.
Oui, je voulais juste faire remarquer que, personnellement, je ne parlerai pas de laïcité plurielle à propos de ces réformes, comme vous dites. Je dirais plutôt qu'il y a eu... Moi, un peu de manière provocante, hein, les premiers accommodements raisonnables ont été avec l'Église catholique, qui ne voulait pas créer d'associations culturelles qui auraient été librement créées par des fidèles et avec qui se donnait un président à leur sauce, en les lisant eux-mêmes. Normalement, c'est l'évêque qui est le chef de toutes les associations. Mm-hmm. Donc, le régime français, le gouvernement, a reconnu les associations de fait des catholiques pour leur accorder le bénéfice de l'usage des bâtiments cultuels, premièrement. Et pour reconnaître ensuite, ça c'est un accord avec le Saint-Siège qui a été conclu en 1923, pour reconnaître ensuite les associations diocésaines qui étaient présidées de droit, qui sont toujours présidées de droit par l'évêque, donc il n'y a pas d'élection, comme des associations cultuelles. Voilà, donc... Moi, j'appelle ça les accommodements raisonnables. Et je ne vois pas de pluralisation là-dedans. Je vois simplement des évolutions, des accommodements pratiques, pragmatiques, on va dire, pour inclure un maximum de groupes. Et d'abord, l'Église catholique, pour lui dire « Tu ne veux pas rentrer dans la loi, on te fait rentrer quand même. » De telle et telle manière.
C'est comme ça
que Jean Bobéro analyse la chose.
Oui.
Voilà,
non,
ça, c'est une chose.
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai que le livre de Jean Bobéro, bon, il en répertorie 7, mais on pourrait, quasiment à l'infini. Hein, c'est-à-dire
absolument, c'est une liste.
Il y a plusieurs modalités, effectivement. Mais c'est vrai qu'on oublie que, effectivement, l'Église catholique a, pendant presque 20 ans, refusé la loi. S'il y a un opposant à la loi de 1905 au XXe siècle,
c'est
l'Église catholique.
L'institution,
on a oublié.
L'institution. Parce que le Parlement qui a voté la loi 1905, c'était majoritairement de catholiques, tout simplement.
C'est une très bonne distinction, ça.
Absolument.
Il faut toujours garder. Une chose, c'est l'institution.
Et l'État français a négocié avec le Saint-Siège un accord international pour reconnaître les associations diocésaines comme des associations culturelles. Il a négocié quand même. On ne verrait pas aujourd'hui l'État négocier avec le Qatar ou je ne sais qui d'autre. Franchement.
Nathalie.
Alors, moi, je propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un chanteur qu'on adore, que j'adore en tout cas. C'est Daman El Arachi. Et on va écouter Ya Raya. Thank you.
العين وطب لك وطب لي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لا بطي تعلم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلي
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Comme de retour sur Aligre FM Philosophie au présent, nous sommes en direct le 27 janvier 2024 avec Martine Cohen et Rabeh Rachi pour parler de la question de la laïcité ou la laïcité en question. Nous venions d'écouter le grand, le magnifique Daman El Arachi, Ya Raya, excusez-moi de mon accent. Et j'ai regardé un peu la traduction et là je parle en présence de deux fins connaisseurs de la langue. Ô émigrant, où vas-tu ? Finalement, tu dois revenir. Combien de gens ignorants ont regretté cela avant toi et moi ? Combien de pays surpeuplés et de terres vides as-tu vu ? Combien de temps as-tu perdu ? Combien en as-tu encore à perdre ? Ô émigré dans le pays des autres, sais-tu seulement ce qui se passe ? Le destin et le temps suivent leur cours, mais tu l'ignores. Pourquoi ton cœur est si triste ? Et pourquoi restes-tu là, misérable ? Les difficultés prendront fin et tu n'as plus à apprendre ou construire quoi que ce soit. Les jours ne durent pas. Tout comme ta jeunesse et la mienne. Ô pauvre garçon qui a raté sa chance, tel que j'ai manqué la mienne. On n'oublie pas qu'en ce moment, il y a des manifestations, notamment en République, pour permettre aux gens que l'on dit étrangers sur notre territoire d'avoir une vraie place dans la République. Voilà, moi, ça me scandalise. C'est vraiment ces, comment on pourrait dire, ces gouvernements, ces États de plus en plus extrême droitistes. Et là, je l'assume pleinement parce que pour moi, l'étranger... on ne devrait même pas l'appeler l'étranger, il est avec nous, il fait que notre pays est un grand pays, hein, avec une grande histoire. Donc, Daman El Arachi, alors ça vous fait réagir,
ouais,
Ya
ouais.
Raya.
Mais vous savez pourquoi ? Parce que ce morceau et la reprise par ouais. Rachita, notre oui. idole à tous.
Nous avons fait une émission sur Aligre FM sur Rachita, bon. Ouais, bien sûr.
Pour moi, c'est un morceau qui est paradoxal parce que... Les personnes issues de l'immigration, mais pas uniquement, se sont réappropriées ce morceau, alors que le contenu des paroles, en fait, dit exactement le contraire de la sédentarisation de ceux qui sont arrivés en France. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas ? Parce que c'est une source d'ennui. Il serait préférable que tu reviennes dans ton pays. C'est quand même paradoxal qu'il y ait une réappropriation de la part de, notamment de personnes issues d'immigration, parce que bon, c'est quand même une critique de l'émigration au sens fort du terme. Quoi.
Tout à fait. Martine Cohen, ça vous fait, vous connaissiez cette chanson quand
je on, connais voilà. très bien la chanson, ouais. c'est vrai, mais je ne connaissais pas toutes les paroles et puis l'interprétation et ce qu'on a dit à Berachi là, je ne savais pas ça. Mais avec l'idée d'appropriation un peu paradoxale, on va dire.
Oui, oui, parce que l'idée c'est bon, tu vas là-bas, mais tu reviens très très vite chez toi, quoi.
Bien sûr.
Les paroles, elles datent de quand alors
la première version, je crois que c'est 1972-73,
oui,
je ne sais plus.
Oui, oui.
La reprise de Rachita, c'est Nathalie Perrin qui est spécialiste.
Oui, c'est dans les années...
C'est début des années 2000 ou 90.
Oui, c'est ça, fin 90, ouais. début 2000. Ouais. Oui.
Alors ouais. c'est un détournement, quoi.
C'est un détournement, oui.
D'un côté, c'est... bon, tu es un immigrant, mais tout le monde pense en tout cas qu'il y aura un retour.
Exactement. Il faudrait en fait que Rachita, malheureusement, il n'est plus là, oui. mais de faire un nouveau morceau. Bon, on est là et on ne bouge plus, quoi.
Oui.
En gros,
c'est ça.
Oui.
Voilà, c'est ça. Et Rachita a été là, il n'a jamais plus bougé de la France, même si son rapport avec la France.
Oui, mais il a été enterré en Algérie.
Voilà, ah oui. voilà, mais c'est ouais. ça. Oui, oui.
Donc,
près de Oran.
Ça a du sens aussi.
Oui, ça a du sens, tout à fait. Bah, il n'a jamais pardonné la relation de la France à la colonisation et à ce qu'elle a fait dans sa propre famille.
Mais ce qui est notamment. Très intéressant du point de vue... On va essayer de faire une pirouette
oui,
historique juste après le morceau d'Ahmed Al-Harachi. L'immigration nord-africaine et algérienne, en fait, elle est très ancienne. Hein. Elle ne date pas de l'après 1945.
Tout à fait.
Moi, dans le cadre de mes travaux, j'ai eu l'occasion de voir qu'il y a des enquêtes de sociologues hein, dès les années 20 et 30. Sur les musulmans de Paris, par exemple. Il y a un certain nombre de lieux à Paris, en banlieue, à Aubervilliers, etc., où d'ailleurs beaucoup de sociologues de tradition, de confession catholique, intéressés par l'étranger et les foyers qui se créent autour de Paris, avec la question du culte. C'est-à-dire, j'ai été frappé de voir qu'on était très sensible à leurs pratiques religieuses, alors que les demandes de leur part lorsqu'ils arrivaient en France... était quasi nul. Je rappelle que la construction de la mosquée de Paris, c'est 1926, l'inauguration. Il n'y a aucune demande de la part des quelques milliers de Nord-Africains qui sont présents à Paris. C'est une création qui est purement officielle. C'est-à-dire qu'on crée une institution pour incarner une légitimité à l'échelle de tout l'Empire. Voilà. Il n'y a aucun besoin culturel précis.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Oui, Martine Cohen,
non,
vous disiez à l'instant.
La grande mosquée de Paris, 1926, c'était aussi une dette de reconnaissance, on va dire.
Alors ça, c'est le discours officiel d'Edouard Herriot,
ah, oui.
qui est le porteur de la loi qui autorise le financement du lieu. Dans les faits, ils étaient, les gouvernants de l'époque, obnubilés par l'idée que les Allemands construisent une mosquée avant nous.
Ah.
C'est-à-dire que quand on voit, il y a une lettre d'Aristide Briand de 1916, qui s'inquiète de la possibilité que les Allemands, et ce qui a été le cas, hein, il y a une mosquée qui a été inaugurée à Berlin avant même que celle de Paris soit inaugurée. La question, c'est créer une légitimité. Alors, l'argument qui a fait mouche, c'est effectivement de dire, bon, nous avons beaucoup de soldats d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Ça va être l'argument trouvé pour justifier le financement public, la dérogation. Mais je ne suis pas en train de remettre en cause le point de vue d'Edouard Herriot, hein, mais c'est, d'après moi, c'était uniquement un élément de discours
hein,
qui permettait de... D'ailleurs, quand on voit les débats à l'Assemblée nationale, on reproche à Edouard Herriot de ne pas... On parlait du Vatican tout à l'heure, de ne pas reprendre les relations diplomatiques avec le Vatican, parce que c'était un laïc convaincu, mais en revanche, de permettre le financement d'un lieu de culte à Paris. Et voilà, mais c'était à des fins de contrôle. Ça, c'est les historiens, c'est très documenté. On crée une mosquée pour que les musulmans de la région parisienne dans les années 20 et 30 puissent être comptabilisés, qu'on puisse les contrôler. Et la religion était perçue comme étant un moyen de contrôle social.
D'accord. Est-ce que ça a toujours été Michele,
oui, on passe un petit instant de l'islam aux communautés juives. Mm-hmm. Alors, je voudrais lire un petit morceau de l'ouvrage de Martin Cohen, « Fin du franco-judaïsme, point d'interrogation. Quelle place pour les juifs dans une France multiculturelle ?» On rappelle qu'elle a été publiée aux presses universitaires de Rennes 2022. Alors, dans les conclusions, Martin Cohen, vous écrivez « La France est devenue une société multiculturelle. Plusieurs études récentes ajoutent à ces constats une coloration plus dramatique. la société française serait désormais fragmentée et ses fractures seraient lourdes de dangers pour son avenir. Alors ma question, on a bien parlé de la question de la laïcité, de la pluralité, de la pluralisation, mais ma question concerne surtout la, on peut dire, la vie des communautés juives. Est-ce que cette fracture et fragmentation concerne aussi la vie des communautés juives en France aujourd'hui? Et est-ce que la laïcité, comme cet univers un peu pluriel, a la possibilité de, comment dire, de cadrer un peu quelques difficultés?
La laïcité permet le pluralisme des associations culturelles juives. Voilà, premièrement. Et après, ce pluralisme peut être vécu de manière dramatique ou négative, si je peux dire, comme fragmentation. Il n'y a plus d'unité. Ou peut être vécu de manière plus sereine. Tout simplement, bon, il y a une pluralité de choix, finalement. Il y a du choix. On peut être juif orthodoxe, juif libéral, juif non pratiquant, etc. Donc, ça peut être vécu de deux manières. Et quand je parle de fragmentation, ce n'est pas la fragmentation religieuse dont je parle, c'est la fragmentation sociale, dont parle notamment Jérôme Fourquet dans un de ses livres. Et donc, c'est cette fragmentation qui est perçue et vécue comme un danger, un peu, pour l'unité du pays. Alors qu'on pourrait, vivre l'unité dans la diversité, tout simplement, dans la pluralité des choix de vie, des choix de croyance ou de non-croyance, etc. Voilà, c'est tout. Donc, pour moi, la fragmentation n'a pas un rapport direct avec la laïcité. Ce qui a un rapport direct avec la laïcité, c'est la possibilité de pluralité des choix, pluralité religieuse ou non religieuse. Voilà.
Donc, il n'y a pas une sensation, disons, de fragmentation aussi à l'intérieur?
Non,
pas forcément.
Alors, je dois dire, il y a un des sociologues des religions, Jean-Louis Schlegel, qui est de la revue Esprit, a fait un compte-rendu de mon livre en parlant de fragmentation. Mais en fait, il a comparé ça avec la fragmentation du monde catholique. Et c'est vrai que dans le monde catholique, aujourd'hui, en France et ailleurs aussi, on vit cette diversité interne. On peut vivre cette diversité comme une fragmentation d'une unité perdue derrière le pape. Voilà. Et donc moi, je connais bien Jean-Louis Schlegel et je lui ai dit, mais pour moi, ce n'est pas la fragmentation, c'est la pluralisation.
Oui, voilà. Donc ils sont deux phénomènes différents.
Ça peut être vécu de manière négative ou pas.
Puis bien, Nathalie
Oui, alors moi, j'ai une question pour Haber Hashi, mais je voudrais d'abord lire un extrait de son article que je citais en début d'émission, « La France, l'islam et la loi de 1905, genèse coloniale d'un poncif, l'incompatibilité ». Et je lis à la page suivante, deuxième page de l'article. « Dans l'imaginaire collectif, l'islam est en effet la dernière religion à s'être implantée sur le territoire métropolitain à la faveur de flux migratoires issus de l'ancien empire colonial. De plus, pour des raisons liées notamment à la visibilité de sa pratique ainsi qu'à sa perception, cette religion se situerait à distance de la sécularisation qui a affecté la société française et, par un hasardeux ricochet, la plus étrangère à notre droit des cultes. Le discours politique relaie régulièrement cette trame historique linéaire, souvent pour mieux justifier un interventionnisme à l'endroit du culte musulman, voire une refonte du régime des cultes, comme ce fut le cas avec la loi du 24 août 2020. Confortant le respect des principes de la République qui modifie substantiellement la loi de 1905. Ma question, Haber Hashi, est la suivante. N'y aurait-il pas dans le travail que vous effectuez finalement entre l'Algérie et la France avec cette thématique de la laïcité, est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte, et moi c'est ça qui m'intéresse dans votre travail, d'inactualité de ce travail de chercheur, au sens, mais j'entends l'inactuel, au sens nietzschéen du terme, c'est-à-dire de l'intempestif, hein, c'est de travailler à ce qui est à contre-temps de notre temps actuel. Nietzsche disait en faveur d'un temps à venir. Alors pour Nietzsche, c'est penser activement, c'est penser dans l'inactualité, dans l'intempestivité, dans l'intempestif. Et ça renvoie chez vous, je crois, à un certain rapport à l'histoire comme un diagnostic, en fait, et un diagnostic des opinions du temps présent. Et dans ce que je viens de citer à l'instant, il y a vraiment cette remise en question. C'est-à-dire, aujourd'hui, on voit bien, il me semble que je dis quelque chose d'assez juste, d'un règlement de compte en faveur d'une certaine communauté, la communauté musulmane. Et vous êtes en train de montrer que ce travail de la laïcité que vous faites habite aussi cette communauté, et que finalement ce qui se passe aujourd'hui contre elle, Dans les faits, l'histoire montre tout autre chose.
Oui, je pense que il est préférable sur ces questions de ne pas rester enfermé dans le présent. Les médias, le discours politique jouent beaucoup dans ce sens, c'est évident. Bon, nous, notre fonction, c'est d'essayer de déplacer le regard. Et quand on déplace le regard, on se rend compte que les questions qui sont posées aujourd'hui, mais que ce soit sur le plan du droit, mais y compris sur les questions de vie collective, de vie en commun, ce ne sont pas des questions qui sont nouvelles. Elles se posent depuis plus d'un siècle. Je ne dirais pas depuis la conquête des premiers territoires où l'islam était majoritaire, mais on pourrait aller jusque-là, étant entendu que l'islam est une religion française depuis 1830. Objectivement, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à cette définition en disant à partir du moment où une religion est soumise au droit français, elle devient française, quel que soit le statut des individus. Les individus, à la période coloniale, aux quatre coins de l'Empire, avaient des statuts différents. Il y avait des sujets, des protégés pour le Maroc, la Tunisie, etc. Mais je précise d'emblée que le statut de l'Algérie est un cas à part au sein de l'Empire colonial. C'est le territoire le plus assimilé d'un point de vue administratif et politique. Donc, dès 1830, vous avez des textes de droit qui réglementent la façon dont la religion musulmane va être exercée. Dès 1830, dans un sens de contrôle. Alors, moi, j'ai identifié trois principales périodes sur le temps long qui viennent illustrer le passage que vous venez de dire. Il y a la période 1830 jusqu'à 1905, où je rappelle que le territoire est d'abord administré par des militaires en Algérie. Progressivement, l'administration devient civile. En 1905, il y a une rupture quand même. Même si la loi ne s'applique pas intégralement à l'islam et aux autres cultes présents en Algérie, que ce soit le judaïsme, le catholicisme ou le protestantisme, il y a une rupture, c'est-à-dire qu'il y a une neutralité financière qui s'impose, mais on accorde quand même des indemnités aux ministres du culte, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Donc 1830-1905. Il y a ensuite la phase 1905-1962, qui est très importante. La fin de l'Empire colonial se traduit par des flux migratoires d'individus qui viennent des territoires anciennement coloniaux en France métropolitaine. Et la vraie question, c'est de dire, est-ce qu'une fois installé en France métropolitaine, est-ce que l'administration de l'islam va être la même qu'à la période coloniale ? Elle est objectivement différente. Moi, je m'inscris en faux par rapport à un certain nombre courants d'historiens qui considèrent qu'il y a une continuité coloniale. Ça existe dans notre corporation. Il y a des ouvrages qui indiquent qu'il y a une fragmentation coloniale de la société française. Sur la question de l'islam, il est impossible d'arriver à cette conclusion à partir de 1962 pour une raison assez simple à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de réforme du régime des cultes en 62 jusqu'aux années 2021. Parce que pour moi, c'est la troisième période, entre 1962 et 2021, c'est-à-dire la loi que je cite, d'août 2021, ce qu'on a appelé dans la presse la loi séparatisme. Cette loi, elle introduit une rupture depuis la fin de l'Empire colonial. Depuis la fin de l'Empire colonial, il y avait le principe d'égalité qui... Alors, bien sûr que la religion est perçue de façon assez négative en France. On ne va pas se voiler la face, c'est évident. Mais sur le plan du droit... Sur le plan du droit, l'islam a été placé sur un pied d'égalité. Dans les pratiques administratives à l'échelle des préfectures, ici ou là, ça a sans doute été différent, mais jamais eu de réforme de la loi de 1905 depuis 1962. Et la première fois, c'est en 2021. Alors, en quelques mots, cette loi de 2021, pourquoi elle vient clore la troisième phase ? C'est que pour la première fois, on réforme la loi de 1905 en ayant un culte en particulier à l'esprit, le culte musulman. C'est la première fois. Il n'y a pas de précédent. Dans toute l'histoire de la législation des cultes, ce projet de loi vient modifier, on ne va pas entrer dans le détail parce que ça risque d'être très technique, mais à l'échelle des préfectures, désormais les préfets peuvent valider la qualité cultuelle d'une association. Nous sommes tous les trois, nous voulons créer une association cultuelle, on va devoir présenter devant le préfet, il va valider. Donc c'est une espèce d'autorisation préalable. C'est une autorisation préalable. Et cette autorisation préalable, elle n'a une durée de validité que de 5 ans. Autrement dit, dans 5 ans, si on a tenu des propos, subversifs, dans le lieu de culte, etc., et que c'est venu à l'oreille de l'administration, qu'il y a eu les services de renseignement qui ont été particulièrement méticuleux dans la retranscription de ces propos, etc., au bout de 5 ans, je peux me voir refuser la qualité cultuelle de cette association. Ça, c'est du jamais vu dans toute l'histoire du droit de la laïcité depuis 1905. Mmh. C'est pour ça que, pour moi, la période qui a suivi l'indépendance, 1962, bon, sur le plan du droit, le principe d'égalité s'appliquait peu ou prou, mais cette loi vient clarifier un tournant qui est un tournant sécuritaire, si, très clairement.
Très, très important dans ce point de vue. Alors, on plonge un petit moment dans l'actualité, Martin Cohen, seulement une question, une réponse un peu brève. Est-ce que la laïcité empêche qu'on peut faire Hanouka à l'Élysée?
Ah, Hanouka, oui, la fête de Hanouka.
Pardon,
ouais, les haches. Et on terminera là-dessus avec Rabbi Rashi également.
Quelle est votre réponse? Et Rabbi Rashi, quelle est votre réponse?
Moi, j'ai le sentiment que non, personnellement. Hein, mon analyse serait que non. Maintenant, je suis un peu interrogative devant le fait que la vigie de la laïcité, qui encore comporte beaucoup de spécialistes de ce sujet, notamment, n'a pas condamné clairement, explicitement, ce sujet-là. Elle a juste fait un rappel que dans les espaces non privatifs, c'est-à-dire publics, institutionnels de l'Élysée, on ne doit pas avoir un culte religieux, aucun culte religieux. Ensuite, elle a fait cette remarque que, ça s'est passé de manière imprévue, de façon imprévue, à l'occasion d'un autre événement qui était la remise d'un prix pour la France, donc au président de la République, d'un prix de lutte contre l'antisémitisme. Donc c'était de manière imprévue, et donc, voilà, peut-être, ça laisse ouvert la porte à quelque chose. Elle n'en appelle pas moins tout le monde à la prudence par rapport au contexte international et national actuel. Et donc, ça veut dire quand même quelque chose de particulier. Elle ne l'a pas condamné explicitement, mais bon, moi, personnellement, je pense que c'était une erreur de la part du culte, enfin des rabbins français, enfin des grands rabbins français, parce que ça prête le flanc à une accusation de poids, de mesure, tout simplement, puisque côté musulman, on est soupçonneux vis-à-vis de n'importe quel acte, enfin pas n'importe lequel forcément, mais vis-à-vis des abayas, des camis, à l'école, etc. etc. On est soupçonneux d'écart par rapport à la laïcité. On ne peut pas accepter cet écart-là, à mon avis.
Merci Martin Cohen. Rabbi Rashi, très rapidement.
Très rapidement, moi je ne trancherai pas, parce que pour moi ça fait partie des controverses qu'affectionnent particulièrement les médias, et qui sont des combats, pour moi, pseudo-laïques. Je crois que l'engagement laïque doit se porter sur d'autres questions. Moi, je suis davantage intéressé et un peu outré en qualité de contribuables laïques, si je puis dire, par le fait, par exemple, sur les questions des établissements confessionnels en France. C'est-à-dire que, pour moi, c'est une vraie question de laïcité.
Le financement est légal.
Mais le contrôle, très sélectif selon les établissements privés sous contrat. Pour que les auditeurs s'en rendent bien compte, on donne chaque année à peu près 13 milliards d'euros. Alors, les gens ne réalisent pas 13 milliards, c'est le budget du ministère de la Justice aux établissements privés sous contrat. Cette question, alors, elle a suscité un certain nombre de réactions, de remous suite aux déclarations de la ministre de l'Éducation nationale.
Qui est toujours en poste.
Qui est toujours en poste, malgré tout.
Malgré ça.
L'idée, c'est de dire, bon, parce qu'on n'a pas du tout parlé de la laïcité scolaire, ou à peine. Mais la laïcité scolaire, la matrice, elle vient des années 50. Et au début des années 50, toutes les lois là, qui permettent le financement des écoles confessionnelles viennent de la majorité du parti de l'époque MRP. À l'époque, on appelait ça la machine à ramasser les pétainistes. Qui a facilité la création d'un socle législatif qui a permis le financement des écoles privées. Moi, je ne suis pas contre l'idée du financement privé, mais au moment où on supprime la convention avec un lycée à Lille, un lycée musulman, avec un contrôle très pointilleux en matière de laïcité, de pratiques éducatives, etc., au même moment, on contrôle assez peu les établissements catholiques.
Le contrôle sur le Stanislas est resté
dans les tiroirs de la ministre, étant donné que, ce n'est pas uniquement parce que l'un de ses enfants y était scolarisé. L'idée, c'est quand même, j'incite les auditeurs à lire l'entretien qu'a accordé le vice-président du Sénat communiste, et là son nom m'échappe, aujourd'hui dans le journal L'Humanité, où il parle de guerre de classe en matière de laïcité, où il explique que, bon, il faut peut-être se réapproprier la question de la laïcité scolaire, dans la mesure où on n'a plus du tout développé de contrôle, ou si peu, en matière d'éducation.
Tout à fait. Et on sait bien qu'on est on finance en grande partie l'école privée catholique avec nos deniers.
Essentiellement catholique.
Si les écoles en question étaient, respectaient les conditions du financement public.
Et si elles accueillaient des enfants issus de milieux, des classes moyennes ou des milieux populaires.
Tout à fait.
Il y en a qui le font.
Oui.
Alors, on va passer la parole à Michele Saporiti pour la flânosophie et le petit jingle qui vient juste avant. Nous sommes en retard.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans cette petite rubrique, ce petit divertissement de philosophie au présent qui s'appelle Flânosophie. Alors l'invitation est toujours la même, essayez de mettre de côté votre portable encore pour tout un petit instant et aujourd'hui nous sommes arrivés à la 7e flânosophie depuis le début de notre rubrique et comme pour la dernière fois, avant de commencer à flânosopher, je vous invite à faire un geste. Essayez de regarder autour de vous. Y a-t-il un tableau, plusieurs tableaux peut-être? Y a-t-il un miroir, un document important que vous ou quelqu'un d'autre a décidé d'exposer sur le mur? Si votre réponse est oui, et donc si vous n'aimez pas écouter Philosophie au présent à la gym, au supermarché, vous avez bien identifié l'objet philosophique d'aujourd'hui, le cadre. Je ne sais pas si vous avez déjà la même expérience, mais j'étais toujours fasciné par les cadres. Et pas mal de fois, j'étais bien plus fasciné par un cadre que par le tableau qu'il contenait. Et si nous réfléchissons bien, le cadre est un objet philosophique injustement peu considéré. Alors aujourd'hui, nous nous engagerons dans une brève opération d'encadrement philosophique du cadre. Et alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un cadre ? Un cadre est un effort de limitation de l'étendue de quelque chose, une bordure qui signale l'existence d'un contenu, pas forcément l'importance de ce contenu, ou au contraire, une bordure qui marque l'absence d'un contenu. Et cet effort de limitation de quelque chose est tout à fait singulier parce qu'un cadre n'est pas une frontière, mais il peut aussi devenir une frontière. Un cadre n'est pas une borne, mais il peut aussi représenter une borne. Un cadre n'est pas une barrière, mais il peut cloître avec une force majeure ce qui limite. En ce sens alors, le cadre pose une relation très précise. Il a la capacité de créer une tension, une résistance réciproque entre un dedans et un dehors, et même de marquer l'existence d'une telle spécialité. Et pour mettre à l'épreuve cette esthétique minimale du cadre, je vous propose, chers flânosophes, d'aller nous promener dans deux espaces différents. Première flânerie. Nous sommes à Paris, où la concentration des musées, des bistrots, des boulangeries, des bibliothèques est si haute que des recherches zoolo-sociologiques, pas encore officialisées, ont découvert une association clandestine de souris dont le slogan semble être « Les rats des bibliothèques et des musées ont aussi leurs droits ». Mais maintenant, allons flâner au Louvre. C'est un jour particulier, tout à fait étrange. Grâce à un blackout nocturne, une bande de voleurs est entrée au Louvre. Mais dans l'étonnement collectif, les gardiens du matin ont constaté une situation bouleversante. Pas un seul tableau n'avait été volé. Par contre, tous les cadres des tableaux avaient disparu. Alors le Louvre est donc devenu la plus grande musée au monde des tableaux sans cadre. Ça change quelque chose pour nous, chers flânosophes. Est-ce que les tableaux ont été finalement libérés d'une cage qui a enfermé leur puissance? Est-ce que la nudité esthétique des toiles nous perturbe? Est-ce que cette nudité influence vraiment l'importance de ce que nous regardons? Seconde flânerie. Nous sommes encore à Paris, dans le 5e. Après une salutation révérencieuse et respectueuse à M. Michel de Montaigne face à la Sorbonne, nous entrons dans l'un de ces lieux où les dedans et les dehors se mêlent en composant le 7e art. Nous entrons dans un cinéma, dans l'obscurité d'une salle cinématographique. À travers une image, une scène, des sons, les cinéastes modèlent ce qui illumine nos yeux, donnent forme à l'intériorité visuelle dont nous devenons partie. Mais la question qui se pose aujourd'hui, cher Flânosov, est plus spécifique. Quel est le cadre du tableau cinématographique? On utilise l'expression « cadrer une image »,« cadrer une scène », mais quel est le cadre de l'écran? Et si l'écran est le noir, l'obscurité fait exister la lumière, quelque chose de plus soufflant se produit. En tant que spectateur, Nous faisons partie de ces cadres. Nous devenons la composante humaine de l'obscurité. Et cette expérience de participation, de rire que le cinéma produit, nous révèle la fluidité de l'esthétique du cadre, car il n'y a pas un véritable dehors et dehors, il n'y a pas une ligne qui trace l'inclusion. Et nos philosophies s'arrêtent ici, chers philosophes. Maintenant, c'est à vous d'expérimenter l'univers de cadres et des cadrages dont nos vies se composent.
Merci beaucoup, Michele, pour cette flânosophie. Voilà, le générique est en train de partir, car nous sommes un brin en retard. Mais non, nous avons encore quelques petites secondes. Alors d'abord, j'en profite pour remercier nos magnifiques, charmants, splendides et si professionnels techniciens qui sont là dans ce studio. Ce sont les dernières émissions dans notre centre historique.
Rue de Montreuil.
Rue de Montreuil. Nous allons bientôt aller dans un nouveau lieu. Et en tout cas, merci à nos techniciens, Luca, Fanti et Enrico. Toujours un job incroyable pour les amateurs que nous sommes. Eh bien, nous sommes sortis du cadre aujourd'hui, mon cher Michele, car nous n'allons pas pouvoir faire le petit questionnement ou questionnaire qu'on fait d'habitude, pas rationnel. Tant pis, tant pis, tant pis. Oui, Enrico dit « Tant pis, Nathalie, il faut y aller ». Alors, nous allons remercier Martine Cohen d'être venue.
Merci
beaucoup, Martine. Rabé Rachi.
Merci à vous.
Voilà, on va refaire encore une émission avec vous. Et cette fois-ci, on sera dans les cadres.
On va essayer.
Mais c'était passionnant de vous avoir. On a été ravis de travailler avec vous aujourd'hui, cette question de la laïcité. Merci beaucoup, cher Michele.
On sera donc le 3 février avec toi et Stéphanie.
Oui, tout à fait, absolument. Super. Voilà, et dans les nouveaux locaux d'Aligre FM. Vous étiez sur Philosophie au présent, nous étions en direct, figurez-vous, mesdames et messieurs, 27 janvier 2024, il est 16h57 et on rend l'antenne. Merci à tous.
Merci
à très bientôt.
Merci à toutes et à tous. Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.